je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Gute Morgen miteinander und von Zürich her, wie geht's seit den ganzen Tag, solange wie es da ist, bis in den Norden. Bonjour, les chers grandes oreilles du 102.9. Toujours commencer avec un peu de dialecte pour ne jamais oublier la musicalité de la Muttersprache. Et aujourd'hui, nous parlerons de son, de sondier de Perchman, d'ingé son et même avec le sourire dans la voix, le ramasseur de bruit, comme notre cher Thomas dans son aquarium. Mon invité de ce petit jour est justement tout ça, un baroudeur de l'extrême, une immense perche au bout de ses mains, en bandoulière un magnéto, une mixette, il est relié, le sondier avec son caméraman, tous deux, comme deux frères jumeaux, avancent dans la même direction pour réaliser un tournage. Oh, c'est beau ce que je dis, net, sniff sniff. Alors bonjour Thierry Belliot, je suis très bonjour. Heureux de t'interviewer aujourd'hui. Nous qui avons pendant 40 ans interviewé tant de monde, du pape au président de la République, des ramoneurs, des chirurgiens, des concerts, on a fait tout ça ensemble. Merci d'être devant cette ribourmelle de micro. Ici, tu es en terre connue. Comment tu vas, mon cher Thierry?
Ben ça va bien, la retraite... Voilà, bah on ne s'use pas trop, on ne se fatigue pas trop, donc tout va bien.
Tout va bien, tu es un homme heureux.
Bah oui.
Parle-moi un petit peu, c'est vrai qu'on est à la retraite tous les deux maintenant, parle-moi un petit peu de ton ancien métier, ingénieur du son. Ingé son, c'est comment, c'est quoi exactement?
Bah moi, c'est un métier auquel je suis arrivé par la musique, parce que j'avais fait des études de son et de musique, et moi je me voyais plutôt dans les studios d'enregistrement, de la musique. Et puis comme je suis venu... à France 3, faire enregistrer le disque de Roger Siffert, Alsace au pluriel, qui est toujours dans les bacs. Je m'ai traîné un peu dans la maison. Et puis on m'a dit, tiens, ben, y a 15 jours de remplacement à faire à Mulhouse. Et donc j'ai complètement découvert ce boulot. Et je me suis dit, tiens, mais c'est plutôt marrant ça, de se balader tous les jours en voiture. À l'époque, on était quatre. On se balade dans la région, on rencontre des gens qui ont des choses à raconter. Les gens sont plutôt généralement contents de nous voir. Donc ça m'a plu, je me suis dit, tiens, ben pourquoi pas faire ce boulot-là et puis continuer la musique à côté, donc avoir deux activités. Et donc franchement, oui, c'est un métier qui m'a passionné et je craignais un peu à la retraite de devoir couper avec ça. C'est-à-dire que tous les jours de ma carrière, j'ai vu des gens nouveaux, j'ai parlé avec des gens que je ne connaissais pas. Alors ce n'était pas toujours... très sexy. Hein,
quand on allait au bloc opératoire, par exemple, filmer des gens à cœur ouvert.
Voilà, ça encore, c'était pas mal. Non, je veux dire, il y avait des jours très standards quand on était des journées entières, quand c'est général, attendre qu'il se passe quelque chose. Mais en règle générale, puisque quand je fais le retour sur 39 ans de carrière, comme ça, je me dis qu'effectivement, c'est fou de gens que j'ai rencontrés. C'est une chance.
Tu n'as pas que fait l'actualité à France 3 Alsace. En région, ici en Alsace, tu as aussi fait des grands voyages. Tu es parti avec Christine Lefebvre et Jacques Rigaud, où tu as filmé des concerts à l'autre bout du monde.
Voilà, enfin c'était quand même pour le journal, en général c'était quand même pour des émissions d'actualité. Mais effectivement, il y a une période où France 3 avait à cœur d'envoyer ses équipes un peu dans le monde entier pour aller voir les Alsaciens
au bout du monde.
Donc on a suivi des troupes de théâtre ou le Philharmonique en tournée au Japon. J'ai aussi fait un film... d'une heure avec François Zerbe en Russie, sur les Malgré nous, le camp des Français.
Sur Tambov,
qui est toujours, enfin, qu'on peut trouver sur le site de l'INA, qui est un beau film historique. Et voilà, on est resté un mois dans le froid à Tambov en hiver, à filmer dans la neige, et avec des anciens qui nous avaient accompagnés. Oui, c'était vraiment des aventures. Et j'ai bien aimé ces voyages lointains parce que. On n'était pas des touristes. Maintenant, quand je voyage, je trouve ça un petit peu fade.
On est comme tout le monde.
Parce que voilà, là-bas, on arrivait, je me souviens des voyages en Inde, on a fait le voyage en avion, on a débarqué, tout d'un coup j'ai vu un éléphant dans la rue, il y avait des singes qui couraient sur les toits, mais il fallait bosser, on n'avait pas le temps, on a posé nos affaires à l'hôtel et on a tout de suite été au premier rendez-vous, on a tout de suite bossé. Donc j'étais dans un théâtre, il fallait que je tire des câbles avec un gars qui avait un énorme turban sur la tête, et voilà, le boulot, et on était tout de suite immergés dans le boulot et dans le pays, quoi.
En fait, quand tu venais avec une équipe de tournage, est-ce que tu crois que toutes les portes s'ouvraient facilement? Tu étais accueilli de partout, hein,
Oui. Bon, parfois, mais parfois on arrivait, on était un petit peu quand le sujet était un peu chaud. Des fois, on se faisait refouler. On a eu des épisodes assez... je me souviens un peu aussi dans les quartiers, quand on allait filmer, je me souviens d'un film avec Jérôme Soulard sur qui s'appelait Les Inclassables, c'est-à-dire ces jeunes dont on ne sait pas quoi faire parce qu'ils sont trop vieux pour aller, enfin ils sont trop jeunes pour aller en prison, enfin bref. Et donc il y en avait un qui s'était tué dans l'accident de voiture et il y avait une tension dans les sites extraordinaires et nous on est arrivés là pour faire un film, on était dans les caves avec eux pour voir leurs cages où ils cachaient les armes et tout. Donc là il y avait une grosse tension. Mais en règle générale c'est vrai que les gens étaient contents de voir arriver les équipes de télé. Et qu'on était accueillis de façon très très sympa, bien sûr. Ouais, ça a un peu changé au début, hein, quand on a commencé, tu t'en souviens, dans les années 80, la télé était beaucoup plus un événement que vers la fin. Donc,
on nous mettait presque le tapis rouge quand on venait,
il y avait la fanfare. En arrivée, ils avaient déjà préparé les petits gâteaux, etc. Et puis des fois il fallait refuser ce qu'on nous proposait, parce que c'était trop... Vers la fin, bon, c'était plus banal, les gens avaient un peu moins... sont plus habitués aux médias et puis attendaient un peu moins de la télé. Ouais.
C'est marrant parce que la télévision, c'est comme un livre ouvert, on apprend plein de choses, on rencontre tellement de monde et ça nous enrichit, c'est vrai, tu as raison de le dire. Et justement, en parlant d'un livre, tu as écrit un livre, tu as pris des notes, tu as réalisé un livre qui s'appelle Le Sondier. Raconte-moi un peu l'histoire de ton bouquin.
Ben, en fait, moi, j'aime bien raconter les histoires. Tout le monde le sait. Quand on va manger au restaurant, je suis un peu bavard. Et puis, je me suis aperçu que les gens aimaient bien que je raconte des anecdotes de tournage parce qu'il y en avait qui étaient drôles. Et je me suis dit, ben, faut pas que je les oublie. Alors, j'ai commencé à les noter. Et puis, très vite, je me suis dit, ben, je ferai un recueil.
Tous les jours, un peu, tu notais des histoires?
Moi, j'écris beaucoup. Hein. Donc, je fais un peu de tout. Ça me prend très tard le soir ou dans la nuit. Quand je me mets devant mon ordi, j'écris des trucs. Et là, comme je notais sur un carnet à l'époque, puis sur mon téléphone après, un petit mot pour me souvenir d'une histoire. Donc là, je reprenais mes notes, puis je dis, tiens, j'ai envie de raconter celle-là, et je l'écrivais. Et en fait, je me suis aperçu qu'en les écrivant, ces histoires, ça me permettait de mieux les raconter. Parce que quand on écrit quelque chose, on le tourne dans sa tête, on se dit, comment je vais raconter ça? Je vais d'abord dire ça, après je vais dire ça. Puis les gens sont surpris, on crée une chute et tout ça. Et donc toutes mes histoires, je les savais presque par cœur. Et quand je les racontais, ben, ça faisait plaisir aux gens. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais mettre ça dans un petit bouquin. Et puis,
Il y en a 75, hein. 75
anecdotes. Là, j'en ai 75, j'en avais beaucoup plus.
Bah oui, j'imagine.
J'ai fait un tri, parce qu'il ne fallait pas non plus faire un pavé. Et puis, j'en ai certaines, alors, on m'a dit...
Allez, raconte-moi une anecdote de Chirac. On était ensemble en tournage, à Tannes. Raconte-la, allez.
Celle-là, elle est toute simple. C'est une petite... Chirac était venu à Tannes parce qu'il y avait une nouvelle croix de Lorraine qui avait été érigée sur les hauteurs, à la place d'une autre qui avait été dynamitée par...
Par les loups noirs,
les loups
crois.
Noirs,
ouais, c'est ça.
Et donc, il y avait beaucoup de monde, Chirac est arrivé, et puis ils avaient prévu une série de 4x4 pour monter, parce qu'il y a un petit chemin en terre. Et donc, il fallait qu'on monte la presse et les invités dans ces 4x4. Moi, j'étais comme d'habitude un petit peu à la bourre, tu te souviens de moi, j'étais pas...
J'étais comme pas, ce matin, un peu.
Un peu, voilà. J'étais pas hyper rapide dans mon boulot, efficace, oui, mais parfois un peu lent. Et donc, je suis arrivé avec mon matos devant les 4x4, qui étaient déjà en train de tourner. Et j'avais pas de place, alors j'ouvre une porte, c'était plein, j'ouvre une autre porte, c'était plein. Et puis je vois une voiture où il y avait une place, je commence à rentrer dedans, et je lève les yeux, et c'était Chirac qui était dedans.
Qui était à côté de toi.
Alors j'ai eu un mouvement de recul, et en fait il m'a fait non, parce qu'il était pressé, il m'a fait signe de m'asseoir, et hop, on est parti. Et comme en montant dans la voiture, je me suis un peu emmêlé les pieds dans mes câbles, il m'a pris la mixette. La mixette, c'est le petit appareil qu'on a.
C'est un magnéto, quoi.
C'est pas vraiment, magnéto. Oui. Alors, c'est quelque chose, oui, ça me peut dire, ouais. Grosso modo, que c'est un magnéto. Mais, et après, ben, quand on montait, lui, il parlait avec son invité, enfin, le maire du patelin qui était à côté, et puis il tenait ma mixette fermement. Moi, j'arrivais pas à lui reprendre. Et quand on est arrivé en haut, je me suis caché, parce que je me suis dit, ben, il y avait beaucoup de photographes qui attendaient l'arrivée de Chirac, et on se dire qui c'est ce type à côté de lui. Et donc, je me suis un peu planqué. Et puis donc, quand il est parti, j'ai pu récupérer ma mixette. Mais c'était assez rigolo, effectivement.
Président de la République.
Plusieurs fois, j'ai écouté, monsieur le président, est-ce que je peux reprendre ma... Et puis, lui, il ne m'écoutait pas. Il parlait, il la tenait bien. Sur ses genoux, pour pas qu'elle tombe. Il avait les deux mains bien fixées dessus.
Ouais, voilà. C'est une belle anecdote. Ouais. Oui, après, je me souviens aussi, quand on était au Mont-Saint-Odile avec le pape, à un moment, quand il allait se recueillir, Ben, raconte-moi l'histoire quand il s'est recueilli devant la tombe de Saint-Odile. Tu étais avec lui?
Non, en fait, moi j'étais dans une équipe avec Claude Haïm. On était en une équipe rapprochée. C'est-à-dire qu'on était la seule équipe de la presse qui ne devait pas quitter le pape.
On le suivait toute la journée, quoi.
On avait des blousons avec des manches jaunes pour être reconnus de loin. Et dans ces gros événements comme ça, ce qu'on appelle les poules, tu te souviens, c'est des sortes d'enclos où la presse se tient et ils n'ont pas le droit d'en sortir. Ils sont tous à des endroits précis, stratégiques pour photographier, etc. Nous, on était les seuls à rester collés au pape tout le temps. Et donc, on est arrivé au Mont-Saint-Odile, on était à côté de lui. Et puis, il allait vers la messe qui était transmise en direct par les caméras. Mmh. Et je me suis dit, il ne faut pas que je débarque comme ça avec le pape au milieu de...
Sinon, tu seras à l'image.
Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un endroit pour me planquer. Donc, je suis rentré dans une petite pièce qui est maintenant la boutique de souvenirs. Mais à l'époque, les souvenirs n'étaient pas là. Je suis rentré là-dedans en disant, je vais me planquer. Et puis, une minute, même pas après, 30 secondes après, la porte s'ouvre et le pape rentre tout seul. Alors moi, je me trouve tout seul dans cette petite pièce avec le pape. Je commence à sortir et lui, il me fait signe avec les mains. Non, surtout, sortez pas, parce qu'il devait y avoir des gardes derrière qui ne savaient pas que j'étais là. Et donc, j'ai attendu. Et alors, je l'ai vu, il fallait qu'il se mette une écharpe, les habits pour la cérémonie. J'ai attendu que ça soit fini. Et puis, j'ai attendu que ça se calme et que j'entende plus personne pour sortir de là. Parce que je me dis, il y a un carabinieri derrière.
Ouais, t'aurais pu aller en prison.
Qui m'attend avec son fusil. D'ailleurs, quand on va au Mont-Saint-Odile, il y a une salle en bas qui s'appelle la salle du petit déjeuner.
Oui, ouais, exactement.
Et dans cette salle, il y a des photos du voyage du pape. Et il y en a une, on me voit derrière, il faut repérer la perche qui émerge. Derrière, il y a une tête.
Et c'était Diribellio derrière. Et je me souviens aussi d'une anecdote, parce qu'on était, moi j'étais dans une autre poule pour filmer le pape. Et le pape, quand il voyait la caméra arriver devant lui, disait toujours « Et vous êtes de quelle télévision ?» J'ai dit « La France 3 ». Et j'ai béni la France 3. Et toute la journée, il nous disait ça, ma foi. Toutes les équipes, ce sont des beaux souvenirs.
Ah, je me souviens qu'il avait dit de où, alors on avait dit Strasbourg, il a dit « Ah, Deutschland ».
Deutschland. Il n'avait pas appris sa géographie, le pape. Alors, bien sûr, tu as plein d'anecdotes croustillantes comme celle-là, mais je me souviens aussi d'une où tu me racontes de temps en temps quand tu avais les clés de la cathédrale avec le caméraman Denis Becker, qui est maintenant là-haut dans les étoiles, et on le salue chaleureusement. Avec Denis, tu avais fait un reportage, tu étais dans la charpente de la cathédrale. Et raconte-moi ce que tu as vu en pleine nuit, là, au-dessus.
Ben voilà, on faisait un film d'une heure aussi, donc on était dans la cathédrale, on avait les clés, on pouvait y aller quand on voulait.
C'est génial, ça, voilà, extraordinaire.
Ça, c'est une expérience...
Tu n'as plus jamais ça aujourd'hui.
Ah ben c'est sûr, Denis m'appelait, et puis il me disait, tiens, il a plu, il va y avoir des reflets sur les toits, on y va.
Et donc on a fait... Nuit. Il te réveille en pleine nuit.
On a fait la neige, on a fait... Ouais. Voilà, c'était une expérience. Et on pouvait aller partout à l'époque. Il n'y avait pas encore Vigipirate. Maintenant, il y a beaucoup d'accès qui sont verrouillés avec des tôles et tout ça. Maintenant, et dans la charpente de la cathédrale, il y a un endroit qui est absolument fabuleux. Peu de gens peuvent voir ça, mais c'est un endroit absolument magique. Il y a une petite porte au bout, toute petite porte. Et si on ouvre cette porte, il y a juste une petite chaîne qui retient de ne pas tomber dans la nef, parce qu'on est au-dessus de l'entrée... De la cathédrale face à la rosace. Dans l'axe, c'est un spectacle inoubliable de voir cette rosace devant soi comme ça à hauteur.
À ta hauteur, oui, je sais, j'étais à cet endroit-là aussi.
Et donc, on voulait filmer ça avec Denis, on ouvre la porte. Et donc, on était dans le noir parce qu'on voulait avoir le contraste, on ouvre la porte. Et puis, à un moment où on a répété plusieurs fois la prise parce que ça n'a pas marché le premier coup. Et à un moment où je sens que ça allait marcher, je vois quelqu'un passer au-dessus de moi sur une poutre. Et je me dis, zut, il y a quelqu'un qui est là, mais tant pis, on continue l'action pour ne pas louper, parce que voilà, on sentait qu'on avait bien fait la prise de vue. On la termine, et je dis à Denis, t'as vu, il y a quelqu'un? Il m'a dit, oui, j'ai vu. Et c'était embêtant, parce que les gens de l'œuvre Notre-Dame nous avaient bien dit de bien fermer les portes derrière nous, que personne puisse entrer, parce que c'était dangereux, et on a vu ce que ça donne à Paris. Si des gens rentrent dans les charpentes et qu'ils s'amusent à allumer des bougies pour faire une petite fête, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc nous, on était très embêtés par ça. Alors on a commencé à chercher et on n'a vu personne. Alors ce qui était drôle avec Denis, c'est qu'on parlait au féminin parce que ce qu'on a vu, c'était une forme féminine. C'était une personne très, très légère, très habile, qui marchait très rapidement sur les poutres et...
Tu veux dire comme une sorte d'ange, un ange ou...
Voilà, alors c'était noir, il n'y avait pas de... Mais ça se déplaçait avec beaucoup d'agilité. Et puis après, en regardant les poutres, je me disais, mais comment c'est possible de te déplacer dans cet enchevêtrement de poutres? Ben alors, on a appelé, on a cherché partout, et puis on n'a trouvé personne. Mais on était quand même très troublés, donc on a tout de suite été le dire au responsable de l'œuvre Notre-Dame pour leur dire, écoutez, on a vu quelqu'un, on est embêté, on n'a pas... Et alors, on a décrit ce qu'on a vu, et le monsieur n'avait pas l'air étonné. Il nous a dit, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est la dame noire de la cathédrale.
C'est très drôle ce que tu dis, parce que tu me l'as tellement raconté, cette histoire, et Denis Becker aussi. Et moi, j'y crois vraiment. Et un jour, j'ai fait un Goethe avec le bischof, avec Monseigneur Grallet. Je lui ai raconté cette histoire, ce que tu racontes aujourd'hui à la radio. Il me disait, tu sais, André, ce sont des anges qui sont là sur les poutres, qui sont pas prêts pour aller dans l'au-delà. Donc, ils attendent que leur âme se purifie pour repartir, quoi. C'est peut-être ça, on ne sait pas.
En tout cas, c'est ce que disait aussi, tu dois t'en souvenir, je ne me souviens plus son nom, le curé de Saint-Odile.
Le padré que j'appelais Patrick Keller.
Et lui, il avait aussi ce discours-là qui ne plaisait pas du tout à son disciple, là, qui était plutôt un intégriste, là, qui fronçait les sourcils quand il parlait de fantômes. Lui, il y croyait aussi.
Je me souviens, on avait fait un Goethe avec lui, tu te souviens? Je crois qu'il faisait moins 18 là au Mont-Saint-Odile.
Il faisait moins 18.
On y était 5 jours. C'était énorme.
Moins 18 avec un vent très fort.
Très fort,
Et on se réchauffait dans la charpente aussi, là où il faisait moins 15.
Je me souviens.
C'était des
moments inoubliables. Alors tout ça, c'est dans ton beau livre qui s'appelle Le Sondier. C'est qui ton éditeur, Thierry ?
Alors l'éditeur, c'est l'édition Bourblanc. C'est une édition associative.
Ouais.
Ce sont des gens qui font des bouquins de qualité, des bouquins d'art. Au début, ils se sont spécialisés dans la danse parce que la personne est une Irina. Une prof de danse,
c'est un bel ouvrage, c'est un très bel ouvrage. Je vous le conseille tous, on en reparlera un peu plus tard. Je sais aussi, Thierry, que tu as plein d'autres passions, pas que l'écriture et ton métier. Tu fais aussi de la musique, et là, tu emmenais ta guitare.
Ah oui.
Pour se reposer un peu les oreilles, on pourrait écouter un petit peu de musique, parce que tu n'es pas un collectionneur, mais on parlera de ça tout à l'heure. On va écouter te jouer. Alors, il prend sa guitare. Clap de fin, mon Thierry. Très joli, c'est très très beau. Ouais.
Wow. Ah, les petits pains le matin.
Les doigts sont encore un peu engourdis avec le froid.
C'est ça, la vie de musicien.
Est-ce que Thierry, tu viens de la musique, tu aurais pu vivre sans musique?
Ah non, enfin, on peut, si, sans doute.
De ton tendre enfance, ta famille ont joué de la musique, non?
J'ai commencé à jouer de la guitare à 8 ans. Je voulais faire comme Johnny Hallyday, je voulais une guitare. Bon, bien sûr, mes parents et moi, j'étais une guitare sympa, fait tout de suite le son de Johnny Hallyday, j'étais un peu déçu. Mais bon, j'ai pris des cours, et puis après, quand j'étais au lycée, je me suis rendu compte que jouer de la guitare, ça donnait certains avantages.
Avec les filles, tu me dis. C'était les années Playboy avec
voilà,
les filles.
C'est ça, quand on savait jouer, et puis après, j'ai fait de la voile aussi beaucoup, donc dans les clubs de voile et tout ça. Donc, je me suis aperçu que... avoir une guitare, ça permettait de rencontrer des gens aussi, de faire des choses avec des gens. Donc, j'ai eu des groupes au lycée. j'ai fait partie de la génération des premiers écolos de l'époque. On faisait des fêtes écolos dans la fin des années 70 dans la région parisienne. Et j'ai joué en première partie de gens qui étaient connus à l'époque, comme Henri Tachant, Riss et Barrier, ou des gens comme ça. Et c'était une belle époque. Et puis, j'ai jamais arrêté.
T'as jamais arrêté. Et aujourd'hui, t'as pléthore de guitares. J'ai vu ça sur ton site internet. T'as des dobros, tu as des banjos bluegrass, t'as de la mandoline, t'as des bouzoukis irlandais, mais et des Gibson, des Fender. Et tout ça, c'est une collection ou ce sont des outils de travail?
Non, c'est pas une collection. Je suis pas collectionneur. J'ai beaucoup d'instruments parce que j'adore ça, bien sûr. C'est une passion. J'adore les instruments de musique. Et puis, maintenant que j'ai un peu plus de moyens et que quand j'étais tout gamin, donc je m'offre les instruments dont j'avais rêvé, mais m'achète des instruments quand j'en ai besoin. C'est-à-dire que chacun de mes instruments a une utilité bien particulière en fonction soit des groupes dans lesquels je joue, soit des enregistrements que je veux faire, mais aucun de mes instruments ne reste sur l'étagère sans jouer.
Sans jouer, ouais. Très longtemps. Et en fait, moi, je me souviens très, très bien. Tu parles d'acheter des instruments. Je me souviens quand on était en tournage, je crois que c'était à Berlin. On était un jour devant la porte de Brandebourg et il y avait un immense marché aux puces. Et là, on s'était arrêté entre deux prises et tu avais vu des guitares, un coffre à guitare avec une guitare blanche. Bien sûr, tu l'as acheté, t'es parti avec, quoi.
C'était ma guitare berlinoise.
On n'avait presque pas de place dans la voiture, mais il fallait mettre sa guitare.
Ouais, c'était. Je ne sais pas si tu n'étais pas avec moi aussi à New York où j'avais acheté une guitare.
Si, j'étais aussi avec toi à New York. Ouais, je me souviens très bien.
Ma première Gibson, j'ai acheté à New York.
Ouais, c'est ça, je me souviens. Alors,
J'avais 2 heures entre deux tournages. J'ai pris un taxi. Je me souviens, c'était un français le taxi.
Ouais, je me souviens.
Enfin, pas un français,
ouais,
c'était un hawaïen, mais il parlait français. Un haïtien, pardon. Et il m'a emmené là où je pouvais trouver des guitares d'occasion. Ouais. Finalement, j'en avais acheté une neuve, mais. Et puis je suis revenu, alors ça c'était rigolo parce que quand on revenait, quand on prenait l'avion, on revenait de New York et j'avais ma guitare. Alors donc toi t'avais ta caméra, moi j'avais ma guitare. Et alors les gens nous regardaient, ils disaient qui c'est ce mec qui est suivi par une caméra.
C'est les Rolling Stones, voilà. C'était bien. Bah, ce sont des beaux souvenirs, tous ces souvenirs en fait, on retrouve tout ça dans ton livre Le Sondier. Et c'est vrai que ce sont des moments fabuleux qu'on a passé ensemble.
Ah ben bien sûr.
C'est vrai, il y avait des fois aussi du bisbille, hein, de temps en temps on n'était pas jour
d'accord.
Ah ben, ça fait partie de la vie. Hein.
Des fois c'est un peu fâché. Ouais. Mais bon, c'est ce que j'ai dit, j'essaie d'expliquer un petit peu à la fin du bouquin. C'est ce que j'ai essayé, j'ai réussi à dire à ma fille, quand elle était question de choisir son métier, je lui ai dit, moi j'estime avoir été un privilégié extraordinaire pour une chose, c'est que quand les vacances étaient finies, j'étais content de retourner au boulot.
Ah ouais.
Jamais une seule fois, je me suis dit, zut, il faut aller bosser.
Ah ouais,
même si c'était pas...
C'était jamais une contrainte.
C'était pas la rigolade les jours, c'était pas... Mais je me disais, je sais pas, je savais quand je partais, alors ça me posait des problèmes aussi dans la famille, avec les amis.
Bien sûr.
Je savais quand je partais le matin, je savais jamais à quelle heure j'allais rentrer. Et je savais pas si j'allais manger avec des clodos ou avec un ministre.
Ou avec un ministre. Alors Thierry, je sais aussi que tu as... Quand tu es sur scène avec tes différentes guitares et ton chapeau, je trouve que tu ressembles à quelqu'un que j'aime beaucoup. On va écouter un petit bout de sa musique. Vas-y voir Thomas, mets-nous voir cette petite musiquette, pardon.
These streets with you. Here I am with this old guitar, doing what I do. I always expected that you would see me.
Alors Thierry, on aime tous les deux Neil Young. Toi, tu dis que c'est le plus grand, le plus fort, le meilleur, l'éternel.
Oui, bien sûr, j'ai un profond respect pour ce monsieur qui n'a jamais dévié de ce qu'il a fait, qui n'a jamais été sensible à aucune mode, et puis qui est le père de plein de styles musicaux, comme le grunge, comme beaucoup de folk, de pop, de folk rock. Non, oui, c'est un grand monsieur, je l'ai vu plusieurs fois, ma fille l'a vu dans... dans un petit comité, un petit concert à Paris, où ils étaient très peu. Ça, je suis un peu jaloux. Et ma fille est fan aussi. Mais oui, bien sûr, c'est un grand monsieur.
Et c'est pour ça que tu mets ton chapeau un peu sur scène ?
Non.
Parce que j'ai l'impression que tu ressembles un peu.
Parce que j'ai le crâne dégarni, qu'avec les lumières, ça brille.
Non, c'est pas dégarni, tu sèmes un peu d'argent, on va dire, voilà. Ça comme ça. Hein.
Non, je copie personne. Alors forcément, j'ai un style qui doit correspondre à ce que j'aime, ça, forcément.
C'est vrai que c'est un très très grand monsieur. Alors, on va revenir, je sais que dans quelques jours, tu as un événement un peu particulier.
Oui, je voulais vous parler, on m'a demandé de lire des nouvelles à la librairie Le Fil Rouge à Cronenbourg.
C'est où ça?
Route de Mittelhausbergen.
Ouais.
C'est une très jolie petite librairie associative, très sympa. Et donc, ils organisent le 19 janvier à 19h. 19h30.
C'est un samedi, le 19, je crois.
Alors, ça doit être un samedi. Je l'ai pas noté. Non, c'est un vendredi.
C'est un vendredi 19. Pardon.
Et donc, ça s'appelle le Marathon de la Nouvelle. Donc, il y a des gens, des comédiens, des écrivains, des gens qui écrivent des nouvelles, qui vont venir lire des nouvelles. Et il y a des petites pauses sympathiques où les gens amènent des gâteaux, des choses comme ça. Ça va s'étaler tard dans la nuit. Et puis, à partir de 23h30, c'est là des textes sortiront qui sont peut-être pas tout à fait pour les enfants. Voilà, on va se libérer un petit peu. Mais vraiment, un super bel événement et une librairie très sympa. Ceux qui aiment les livres, faites un petit tour à Cronenbourg. C'est le vieux Cronenbourg.
Oui, bien sûr.
On n'est pas dans la cité.
Ouais.
Mais vous verrez que c'est un endroit qu'il faut connaître quand on aime les livres et qu'on habite à Strasbourg.
Et en fait, est-ce qu'ils vendent ton bouquin là-bas?
Oui, alors il sera disponible le jour de ce marathon de la nouvelle. Et puis, j'en laisserai sans doute. Pour l'instant, il n'y est pas encore, mais il va y être. Actuellement, le livre, on le trouve à la librairie Chapitre 8, qui est...
Place Saint-Maurice, non?
Voilà, c'est dans... Ouais. C'est rue de...
Ouais, rue Saint-Maurice, je crois, c'est par là-bas. Voilà. Ouais. Et en fait, si on va acheter le bouquin, comment on fait? S'il y a un site internet ou...
Alors, Bourblanc, c'est facile à souvenir. Et les éditions Bourblanc, ils ont un site. Vous verrez comme ça le beau catalogue de livres. Et il y a un lien pour commander mon livre, quand vous trouverez facilement. Bon, il se trouve dans la rubrique alsatique, mais on le trouve facilement. Et autrement, c'est le meilleur moyen. Pour l'instant, alors je vais encore aller voir quelques librairies pour qu'ils soient disponibles en ville.
Ouais, il faut faire un petit peu de radio derrière, de télé.
Voilà, je suis au début de la promotion. Bah, ça fait à peine 3 semaines qu'il est sorti.
Il est sorti,
un petit mois. Quoi.
Donc tu nous fais la primeur, on est fiers.
C'est la première radio.
Et que c'est vrai que tu racontes bien les histoires, on a envie d'en entendre davantage. Est-ce que tu penses qu'un jour tu referas encore un autre livre avec une centaine d'autres anecdotes?
J'ai plusieurs. De toute façon, comme j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de mêmes matières. Et je pense que je vais effectivement... j'ai certaines histoires que je n'ai pas mises parce qu'elles me semblaient difficiles à raconter de façon courte. Et je vais peut-être les raconter différemment. Peut-être avec un peu de fiction, peut-être. J'ai encore de la matière.
Je trouve que le livre est beau, c'est une belle couleur, il est bien écrit, les anecdotes sont croustillantes. Je trouve qu'on a vraiment envie de l'avaler. Je l'ai lu en 2 soirs de suite et ça m'a rappelé tellement de bons souvenirs avec toi. Écoute, Thierry, en tout cas, voilà, notre émission se termine. Je souhaite un grand succès à ton bouquin.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu me raconter toutes ces belles histoires. Et c'est vrai qu'on a tricoté une belle complicité, une belle amitié. Ouais, merci beaucoup. Générique de fin, mon cher ami.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.